Un matin de mai, elle reçut une longue lettre de Maître Tricard, notaire à Maubeuge. L'oncle Alcide était mort, laissant à sa nièce, Angèle Renson, tout ce qu'il possédait, c'est-à-dire sa petite maison, son clos, ses volailles, et une somme de 4200 francs déposée en l'étude et tenue à la disposition de l'héritière. Dans une note spéciale, l'oncle mentionnait une montre qui se trouvait à la tête de son lit. Il avait chargé le notaire de faire parvenir à sa nièce une lettre qui était datée d'un an auparavant. Angèle reconnut tout de suite l'écriture régulière de l'oncle Alcide, qui passait pour avoir de l'instruction. « Ma chère Angèle, te rappelles-tu que je t'appelais M'gamine et que je t'ai promis ma montre quand tu étais petite ? Je te la donne avec le reste, pour que tu trouves ta famille moins dure. Tu as fait un coup de tête, ma petite Angèle, je ne t'en blâme pas, mais il faut t'attendre à avoir beaucoup de chagrin plus tard. J'ai fait bien pis autrefois, et jamais je n'ai retrouvé mon aplomb. C'est une histoire que désormais tu seras seule à connaître. Tu avais remarqué que ta mère m'appelait parfois vieux coureux. C'était pour me rappeler l'aventure que voici. J'avais 20 ans, et j'étais aussi beau garçon que ton père. Dans un voyage que je fis à Lille, je rencontrai sur la grande place une fille publique, Taurine. Je ne pus la quitter. Sans argent, n'ayant pas un métier qui me permît de travailler dans une grande ville, j'acceptai de vivre chez elle et de manger son pain. Le soir, je la suivais sous les arbres, dans les allées des parcs publics, dans les rues mal éclairées, pour la défendre si besoin était. Je l'attendais à la porte des hôtels, sifflant quand il me semblait qu'elle s'attardait, plus jaloux que honteux. Cela dura 2 mois. J'ai aimé cette femme comme un buveur aime l'alcool. Je l'ai suppliée de m'épouser. Je la battais à la tuer. Elle ne m'en aimait que mieux. Parfois, le soir, elle me faisait passer devant un café de la place de la gare, et quand elle voyait, assis dans un coin, un grand jeune homme pâle, elle me disait « Embrasse-moi fort, sur les lèvres !» L'autre regardait et devenait livide. Elle riait haut et m'entraînait en sautant. Cet homme était un fermier des environs d'Hasbrook, venu à Lille pour toucher un petit héritage de 1500 francs. En un mois, il les dépensa avec Taurine, qui le mit à la porte au dernier louis, quelques jours avant mon arrivée à Lille. « C'est un serin !» disait-elle. « Il n'a qu'à retourner chez sa femme !» Car le malheureux avait femme et enfant. « C'est une poule mouillée. S'il avait un peu de cœur, il t'aurait déjà cherché querelle. Ça ne fait que pleurnicher, ce n'est pas comme toi. Comme tu m'as encore battu, hein, brigand, hier. » Et en pleine rue, elle s'accrochait à moi, et je sentais le sang me tendre la peau à la faire éclater. Un soir, que malgré ma répugnance, elle me forçait à passer devant le café où le jeune homme était attablé, elle s'approcha de lui et cria « Et ta femme, et tes gosses !» Il la regardait doucement. Je n'ai jamais vu des yeux si tristes et si grands. Sans rien dire, lentement, comme s'il prenait son mouchoir, il fouillait dans sa poche. Une détonation. Il roule à terre et ne bouge plus. Taurine se sauve en poussant des cris de folle. Aidée d'un garçon de café, je relève le malheureux. Il était mort. La tempe droite déchiquetée, les yeux hors de la tête, la bouche tordue, était sanglant. Le lendemain, je signais un engagement de 5 ans dans l'armée d'Afrique. Pourtant, je n'ai jamais eu le courage de détruire le portrait de Taurine. Je le joins à la lettre. Brûle-le. Angèle, les yeux pleins de larmes, les mains tremblantes, regarda le portrait jauni, souillé, dont les coins étaient usés par le frottement des doigts. Il représentait une femme de 25 ans, vulgaire, à la mâchoire énorme. Tous les jours de ma vie, j'ai pensé à cette aventure. Pendant 50 ans, j'ai eu devant mes yeux cette femme qui m'aurait rendu criminelle, le cadavre de ce pauvre garçon, et mon image à moi qui était celle d'un souteneur. Au régiment, je m'instruisis, je fis quelques campagnes, je passai sergent, si bien qu'au bout de mes 5 ans, mes chefs me pressaient de rengager. J'aurais pu ainsi atteindre ma retraite et vivre tranquille, mais j'avais hâte de revenir au pays. Sais-tu ce qui me poussait surtout à rentrer en France? C'est la pensée que je reverrais Taurine, à qui je n'avais jamais écrit, mais dont le souvenir me brûlait encore la peau. Je la cherchais à Lille, personne ne la connaissait. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Alors je me construisis ma petite maison, et je devins le vieux célibataire maniaque, le vieil oncle Alcide que tu as connu. Si je t'ai raconté tout cela, c'est pour te donner un conseil. Je pense que tu vis heureuse à Bruxelles puisque tu n'écris pas. Cependant, il y a 4 ans, tu es revenu une nuit chez ta mère qui t'a repoussé. Je serais bien allée te chercher chez les Hardy pendant les 15 jours que tu y as passé, mais je savais que tu repartirais. Je ne te dirai pas de quitter l'homme que tu as choisi. C'est une chose impossible. Le conseil que je te donne est le suivant. Quand tu seras seule, soit que tu le quittes, soit qu'il t'abandonne, prends garde à la vie mauvaise. Ne t'obstine pas à tirailler le passé. Viens habiter la petite maison que je te laisse. Elle n'est pas belle, mais tu y vivras tranquille. Même si tu le peux, pourquoi ne reprendrais-tu pas avec Édouard la vie commune? Vous aurez alors assez souffert tous les deux pour vous passer bien des choses. Il vient parfois me voir, depuis qu'il travaille à Maubeuge. Nous ne parlons que de toi. Il a toujours le même chagrin caché. C'est comme s'il s'empoisonnait lentement. Fais ce que tu peux. Si tu savais comme c'est lourd de traîner toute sa vie derrière soi un mort. Je lui ai remis de l'argent pour régler les frais de mon enterrement, car tes frères et sœurs, qui savent depuis longtemps qu'ils n'auront pas un centime de moi, me feraient jeter à la fosse publique comme un chien. N'aie pas pitié d'eux. Ils t'ont méprisé et ils t'ont volé. Voilà tout ce que j'avais à te dire. Tu ne me croyais pas si bavard. Adieu, m'gamine. Sois heureuse le plus longtemps possible. Pense à Édouard. Brûle le portrait. Elle était sauvée. Longtemps, elle laissa couler ses larmes douces, moins triste de la mort de son oncle qu'attendrie par le drame de sa jeunesse. Elle regardait le portrait de cette femme qui avait aimé le jeune paysan, qui se prostituait pour lui alors qu'elle rançonnait et tuait les autres. Et voilà que c'est pour la sauver, elle, la seule de ses nièces qu'il aima, qu'il souffrit, qu'il vécut seul, qu'il amassa de l'argent. Pauvre vieil oncle Alcide! Si elle avait su, elle serait allée le voir le jour de son voyage à Maubeuge. Elle était sauvée. La vie infâme allait donc cesser. Elle ne porterait plus la livrée de la prostitution. Elle ne rôderait plus sur les boulevards. Elle pourrait redevenir une femme. Ainsi, elle ne se coucherait pas l'après-midi afin de pouvoir, sans trop de fatigue, déambuler la nuit. Elle ne se maquillerait pas. Elle n'aurait plus ce battement de cœur quotidien en descendant l'escalier sombre qui donne sur la rue. Elle pourrait dormir seule et manger du pain qui ne lui rappela pas une heure de honte. Elle avait une maison à elle, de l'argent, un clos, une basse-cour, et jamais plus elle ne serait tenaillée par l'âpre hantise du lendemain. Elle était sauvée. Certes, elle écrirait à son mari. N'était-il pas malade? Il habiterait chez elle. C'est elle qui lui offrait un foyer. Il travaillerait à sa fantaisie pendant qu'elle s'occuperait de l'élevage de la volaille. Lui aussi était sauvé. Le soir, elle ne résista pas au plaisir de faire un tour sur les boulevards, riant au nez des passants qui l'arrêtaient. Puis elle les traita d'insolents. Pour qui la prenait-il? À qui croyait-il avoir affaire? Elle finissait par se fâcher pour de bon. Confus, les hommes soulevaient leurs chapeaux et s'esquivaient. Elle demanda au notaire de Maubeuge un acompte de 200 francs, puis écrivit à son mari une lettre de 4 pages. Il l'avait mal jugée dans les 2 entrevues qu'ils avaient eues, mais son travail lui donnait tant de soucis. Leur réconciliation était désirée par l'oncle Alcide. S'il consent à la reprendre, qu'il aille l'attendre dans la petite maison où elle arrivera lundi soir. Qu'il réponde vite, vite. Le lendemain soir, elle reçut une dépêche. « Je t'attends lundi, maison prête. » C'était la première fois que le bourrelier se servait du télégraphe. Elle ne put dormir. Le matin, elle courut chez les Ruidaire pour donner congé. Elle n'avait pas d'adieu à faire à Bruxelles. Si, au vieux commissaire de police, qui s'était montré si bon pour elle. Elle se rendit à son bureau de la rue Hollène, entra et, rieuse, le salua. « Comment? C'est vous? Je vous reconnais bien. Je pars, monsieur le commissaire. » Rapidement, haletante de bonheur, elle lui raconta son heureuse fortune et le remercia d'avoir eu pour elle des paroles de bonté. Le vieux, qui avait toujours une larme à fleur de paupières, pleurotait. « Ah, oh, c'est bien la première fois que ce bureau entend des remerciements. Vous êtes bien aimable d'avoir songé à moi. Je savais bien, j'avais bien vu que vous n'étiez pas une femme à faire ça. » Il essuya une larme qui lui chatouilla le bout du nez. « Je suis content. Je suis content !» Il lui serra la main et la conduisit jusqu'à la sortie, en passant par le bureau désert, où les 3 scribes écrivaient le nez sur leur registre. Elle s'en revenait, alerte et souriante, lorsque soudain elle songea à Gaston et à sa femme, qui vivait à Londres des jours noirs et hargneux. Si elle leur envoyait un peu d'argent, une trentaine de francs, un mandat anonyme naturellement. Elle se représentait la surprise et la joie de son amant qui aimait tant remuer dans ses poches les louis et les pièces de 100 sous. C'est en courant presque qu'elle se rendit à la librairie de la place de Brouckère pour prendre son adresse. La première personne qu'elle aperçut dans le magasin fut la femme de Gaston, qui, voyant Angèle, interdite, s'arrêter sur le seuil, s'avança. Il est mort. Sans larmes, comme indifférente, la jeune femme lui raconta la vie de misère qu'ils avaient vécue à Londres, puis la mort lente à venir dans le lit d'hôpital où la méningite l'avait jetée. Elle était revenue à Bruxelles depuis 6 semaines, heureuse de retrouver son emploi. « Il est mort », se disait-elle en s'en retournant chez elle. Il n'était pas méchant, quoiqu'il l'eût rendue malheureuse. Pour elle, il avait gâché sa vie. Mais pour lui, elle en avait fait autant. Non, elle ne parvenait pas à s'attrister, à s'apitoyer. En se rappelant l'existence désemparée de ses 3 années de collage, elle ne voyait que jours haletés, jours de misère et de noces, sans joie, sans confiance, sans effusion. Certes, il avait souffert par elle, comme elle par lui. Pendant qu'elle roulait au trottoir, il échouait à l'hôpital. Mais depuis longtemps, il était mort pour elle. « C'était un malheureux », pensa-t-elle. Et au bout de quelques minutes, pendant lesquelles elle ne songea à rien, elle ajouta, comme les gens du peuple qui voient surtout dans la mort la fin des souffrances du malade, « Il est bien heureux. » Rentrée dans sa chambre, elle faisait ses malles avec une joie qui lui donnait des points de côté, lorsque Simone entra. Angèle éclata de rire. « D'où viens-tu? Qu'est-ce qui t'a barbouillé ainsi ?»« Barbouillé, » dit-elle en s'approchant de la glace. « Ah, les cochons! Je comprends pourquoi tous les gens rigolaient sur mon chemin. » Tout en s'ébrouant dans la cuvette, elle raconta que la nuit dernière, un cocher l'avait emmenée en voiture à Kockelberg, promettant de lui donner 10 francs et de la ramener à 5 heures du matin. Jusqu'à 4 heures, ils avaient roulé, en compagnie de quelques cochers, dans tous les caboulots de Kockelberg, chantant et chahutant. Elle se rappela que plusieurs fois, les cochers lui avaient pris la tête dans leurs mains en riant. Les clients riaient, les cabaretiers riaient, elle, plus fort que les autres. Puis elle s'était trouvée seule dans la nuit noire, auprès de la gare de l'Ouest. Assommée de fatigue, de bière et d'alcool, elle avait dormi sur un banc. Quand les passants se firent plus nombreux, elle se remit en route, n'ayant pas de sous pour prendre le tramway. S'égara. Erra dans le quartier Est, ne se retrouva qu'à la gare du Nord. Après s'être reposée 1 heure dans une salle d'attente, elle était revenue par les boulevards, s'asseyant de temps en temps sur un banc du trottoir, étonnée de voir rire tous les passants, et surtout effrayée à l'idée de rentrer dans sa chambre où Albert l'attendait. « Quelle scène, bon Dieu, quelle scène! Il va me tuer à coups de ceinture! La ceinture de cuir qui serre son pantalon et qui a 2 boucles en fer, surtout qu'il compte sur 10 francs, comme chaque fois que je découche. Être battu, ce n'est rien, mais ne pas manger, ne pas dormir quand on est éreinté comme ça, autant crever. » Angèle l'écoutait, riant malgré elle. À la fin, Simone fut froissée. « Si tu trouves ça amusant, toi ? Attends, attends, tu vois ces 2 pièces de 100 sous ? Dit-elle en les faisant sonner sur la table. « Eh bien, c'est pour toi. » L'autre, croyant à une plaisanterie, la regardait toute triste. Pourtant, elle ouvrit la main pour les recevoir, mais n'osa la refermer. « C'est vrai ?» Elle s'assit et se mit à sangloter bruyamment. Quand Angèle lui eut répété 10 fois qu'elle les lui donnait, elle les glissa dans ses bas, dont elle releva les jarretières. « Tu sais bien que je n'ai pas encore pu te rendre les 100 sous que tu m'as prêtés. Ça ferait 15 francs. Je ne pourrais jamais mettre 15 francs de côté. Tant pis, à une raclée près, reprends tes 10 francs. Je te les donne, entends-tu, je te les donne, criait Angèle, qui, toute heureuse de créer un peu de joie autour d'elle, courut à son lavabo. As-tu de la poudre de riz? Tiens, en voilà une boîte. As-tu du rouge, de la crème Simon? Tiens, voilà les 2 pots. As-tu de la glycérine, un crayon noir pour les sourcils? Tiens, tiens, as-tu une pierre ponce, une brosse à ongles? Prends tout. Prends tout, débarrasse-moi de tout ça. » Et dans les bras de Simone Ahuri, elle empilait boîtes, flacons, objets de toilette. « Es-tu folle? Es-tu folle? Tu te moques de moi ?» dit la fille, navrée en pensant que peut-être Angèle voulait plaisanter. « prends tout, si tu savais comme ça me soulage. » Elle dut lui expliquer qu'elle venait d'hériter, qu'elle partait demain pour aller vivre avec son mari. « Tu ne sortiras plus ?»« Mais non, sotte, j'ai une maison, des poules !» Simone arrivait péniblement à comprendre qu'on pût vivre sans faire le trottoir, et qu'un homme pût différer d'Albert. « c'est vrai, tu fais tes mal !» Et comme un peu du bonheur de sa compagne avait par ricochet rejailli sur elle, elle n'éprouva ni envie ni amertume. « Tu as de la chance, toi. Tu as toujours eu de la chance. » Angèle ouvrit son armoire. « Attends, tu n'as pas de chapeau ? Tiens, voilà mon grand, à plumes. Tu n'as pas de chemise ? Tiens, en voilà deux, en soie lavable, transparente. Tiens, voilà des jupons. Y en a-t-il des dentelles ? Tiens, ces bottines Louis XV, c'est pour toi. Veux-tu mon écharpe bleue ? Mon jabot de dentelle ? Mes bas en fil d'Écosse ? Es-tu nippée, maintenant ?» Hâtivement, l'autre ramassait toutes les pièces, craignant d'en oublier une, disant « Merci, merci !» chaque fois qu'Angèle lui lançait un jupon, une chemise. « Tiens, ce sac de voyage, prends-le. Quand tu seras sans le sou, porte-le au Mont-de-Piété. On t'en donnera au moins un louis. Mais toi, et toi ?»« Moi ? J'ai à la maison une grande armoire, pleine de linge et de vêtements. » Jamais Simone n'aurait osé rêver ce qui pourtant arrivait. Elle ne souhaitait que posséder une chemise, une paire de bottines surtout, on en eût tant. Et encore, une nippe à la fois, en se traitant de toquée. Et voilà qu'elle pourrait faire le trottoir en chapeau et gagner de l'argent, puisqu'elle n'aurait plus à cacher ses lamentables dessous en se déshabillant. « C'est Albert qui va être content. Il me reproche toujours de ne pas savoir m'expliquer avec les clients. Mais comment veux-tu t'expliquer quand tu n'as pas une chemise sur le dos ?» Elle partit, un énorme paquet sous le bras, étourdi de joie, au point d'oublier de remercier Angèle. Le lendemain, celle-ci se leva avant le jour, quoiqu'elle n'eût rien à faire, ses mal étant expédiées depuis la veille. À 6 heures, Simone frappait à la porte. « J'ai oublié de te dire au revoir hier. Tu penses si Albert a été content. Il m'a fait mettre mon chapeau et m'a conduite au théâtre. Maintenant, je suis sauvée. À propos, tu m'as donné beaucoup de choses hier, n'est-ce pas ? Je peux dire que j'ai eu un grand bonheur, n'est-ce pas ? Eh bien, ça ne m'étonne pas. Ça devait arriver. Comment ? Oui, la semaine dernière, j'ai cousu dans ma jarretière un bout de corde de pendu. Je me disais, avec ça, je ferai 100 sous chaque soir. Tu vois que ça m'a apporté bonheur. Et il y a des gens qui ne croient pas à la corde de pendu. » Joyeuses, les deux femmes se dirigèrent vers la gare. À l'angle du boulevard du Hainaut et du boulevard du Midi, ces deux voies où elle avait tant rôdé, Angèle s'arrêta. En face d'elle s'étendait la place de la Constitution, où une nuit elle s'était colletée avec Simone, qui se mit à rire en la poussant du coude. C'est dans ce quartier que, pour la première fois, elle s'était offerte aux passants. Qu'elle avait pleuré, qu'elle avait souffert. Se pouvait-il qu'elle eût été tourmentée jusqu'à se souhaiter la mort, dans ces rues si calmes, voilée de brume bleue où les maisons paraissaient toutes roses. Tiens, les marronniers sont en fleurs. Quelques-uns ont des fleurs blanches, les autres des rouges. Elle n'avait jamais vu la nuit que leur fût noire et hostile. C'est là, sous cette porte de la gare du Midi, que l'agent des mœurs avait failli l'arrêter. En levant les yeux, elle aperçut les fenêtres de la chambre d'hôtel où elle avait passé sa première nuit à Bruxelles, avec son amant. Elle y était entrée saoule et, à peine remise de sa crise de nerfs, avalait du champagne. Quelle existence elle avait eue dans ce Bruxelles de malheur ! Et dire qu'il y a 8 jours, je ne pensais pas que je pourrais jamais le quitter. « Pourtant, tu n'avais pas à te plaindre, » dit Simone. « Mais comment pouvais-tu vivre sans homme ? Moi, sans mon petit bébert, tu ne connaîtrais pas la ceinture à boucles. » L'heure du départ approchait. Angèle embrassa Simone, qui se mit à sangloter sur son épaule et s'éloigna en se mouchant avec bruit. Debout sur le quai, devant un compartiment de dames seules, ne pensant à rien, Angèle se sentait l'âme légère et fleurie. Puis, au moment où elle saisissait la poignée de la portière et enjambait le marchepied, les paillettes de ses yeux noisettes s'allumèrent. Un sourire malicieux releva les coins de ses lèvres. « Je parie qu'il aura fait cuire une oreille de cochon !»